Lecture de l'article intitulé « Médecine » écrit par le professeur Maurice Lauper, professeur honoraire de la faculté de médecine, membre de l'Académie de médecine. Un article publié dans la collection « Almanach des sciences 1949 », sorti dans les éditions « La Gazette des Lettres » et « Éditions de Flore ». Donc, Almanach des sciences 1949, édition de Flore et la Gazette des Lettres, article intitulé « Médecine », écrit par M. Maurice Lauper, professeur honoraire de la faculté de médecine, membre de l'Académie de médecine. Le but premier, c'est de partager des informations que nous perdons, puisque ce sont de vieux livres qui parfois partent à la poubelle, mais qu'est-ce qui se passait en 1949 ? Le temps n'est plus où l'on pouvait moquer la médecine, critiquer ses méthodes empiriques et ses hypothèses fragiles au profit d'une chirurgie plus progressiste, plus inventive, plus réaliste. Dans le monde des savants et dans le monde tout court, cette attitude critique était assez courante et fort goûtée. Elle n'est plus de mise aujourd'hui. La médecine est devenue plus rigoureuse, plus savante et plus sûre, et son essor est vraiment prodigieux. Au perfectionnement des découvertes de l'an passé s'ajoutent les découvertes de l'année actuelle, toutes hantées sur la chimie, la physique, la physiologie et la biologie. Les investigations plus audacieuses, les dosages plus rapides et plus ingénieux, les indications plus spécifiques et la thérapeutique qui en découle à des réalisations vraiment géniales et des réussites miraculeuses. La médecine récente me semble avoir trois caractères principaux. D'abord, clinique. Elle pénètre de plus en plus profondément dans l'intimité du corps humain. Elle accroît chaque jour son audace sans accroître ses risques et elle perfectionne ses appareils. Ensuite, chimique. Elle recherche dans tout produit, qu'il appartienne à nos cellules ou soit emporté par les médicaments, le noyau actif, la quintessence, comme disait déjà Paracelse il y a 500 ans. Elle en fait l'extraction, le purifie et le réalise même par synthèse. Enfin, pathogénique. Elle s'intéresse dans la genèse des symptômes et aussi dans leur traitement aux substances intermédiaires, c'est-à-dire à ces produits cachés de notre corps, doués d'une action vasculaire ou sécrétoire spécifique, dont le médicament ou la maladie provoque la sortie et qui sont, plus que le médicament ou l'agent pathogène, la source des symptômes et la raison de leur physionomie. Ces quelques notions principales dominent actuellement notre clinique, nos interprétations et nos méthodes thérapeutiques. Je n'insisterai pas sur les bienfaits de nos explorations cliniques, électrocardiogramme qui donne la pensée du muscle cardiaque, phonocardiogramme qui en inscrit les bruits, encéphalogramme qui montre l'activité du cerveau, tous les perfectionnements de l'endoscopie qui va jusqu'au fond de l'estomac ou des bronches, de la radiographie qui localise les lésions pulmonaires, osseuses ou digestives. Non, plus que sur les méthodes d'exploration chimique des diverses fonctions du foie ou du rein, la ponction biopsique qui va chercher les cellules même de l'organe malade ou de la moelle osseuse pour les porter sous le microscope. Je rappellerai seulement l'essor des hormones, qui est l'un des plus extraordinaires de la biologie et de la pathologie. Des vitamines qui se multiplient chaque jour, substances dont la carence ou l'excès a si profondément modifié nos conceptions des maladies de nutrition. Je dirais enfin que, de plus en plus, La carence d'un produit utile ou son blocage dans les tissus apparaît comme l'étape obligée de l'action toxique d'un produit comme l'alcool lui-même ou d'un médicament comme le soufre. Clinique et pathologie ont terriblement changé et progressé, mais c'est la thérapeutique qui semble la vraie triomphatrice de ces dernières années. C'est pourquoi, plutôt que d'insister sur les progrès de la médecine, je me limiterai à ceux de la thérapeutique. La guerre et ses privations ont appris aux Français, comme ils l'avaient appris aux Allemands en 1918, quelle part la carence alimentaire, spécialement la carence en substances protidiques, viande, œufs, lait, fromage, pouvait avoir sur la production, non seulement de la cachexie, de l'amaigrissement, mais aussi de toute une série de déficits glandulaires et surtout d'exsudations œdémateuses. Et le traitement de tels états réside avant tout dans l'administration d'albumine, simple animal, qui reconstitue la réserve indispensable à l'équilibre des cellules et des organes, à la tension des albumines pour employer l'expression consacrée. Dans les cas graves, à la protidothérapie alimentaire digestive, on a substitué la protidothérapie sanguine, c'est-à-dire l'hémothérapie, ou pour mieux dire encore, la transfusion du sang total, qui contient les globules et le sérum, ou du sérum seul, ou plasmathérapie. Cette thérapeutique, vraiment spécifique, a sa place dans les affections médicales autonomes, telles que la néphrose lipoïde et les diarrhées graves. Elle a sa place aussi dans les brûlures et certains grands traumatismes chirurgicaux. Et pour se perfectionner chaque jour, elle suscite des travaux biologiques des plus intéressants. Elle raffine les méthodes de dosage des albumines du sérum et conduit à l'isolement non seulement de 2, de 3, mais de 5 catégories d'albumines désignées par 5 lettres différentes. Ces albumines représentent l'une des substances agglutinantes, l'autre les anticorps, celle-ci la prothrombine, la mère de la fibrine, celle-là le fibrinogène, celle-là encore une albumine anti-hémorragique ou plutôt anti-hémophilique. Cette séparation faite par électrophorèse permettra peut-être un jour l'administration élective ou exclusive de l'une ou l'autre de ces protides dans des états spécifiques nettement déterminés. Les injections de sang, de plasma, de protides ont malheureusement leurs inconvénients et même leurs accidents. Le danger, qu'il s'agisse de lipides faits frais ou conservés, est dans l'agglutination des globules rouges et leur plus ou moins brusque hémolyse ou dissolution. Cette agglutination se produit quand le sang du donneur et celui du receveur sont antagonistes, ou, pourrait-on dire, antipathiques. Nous connaissons plusieurs de ces agglutinogènes. Nous en connaissons depuis peu un nouveau sous le nom du fameux rhésus, facteur RH, héritage de nos ancêtres simiens, qui se trouve dans certains sérums humains et dont la présence déclenche de véritables drames. Provoque des ictères rebelles chez le nouveau-né, des anémies graves avec flux de globules rouges au noyau aussi et que l'on ne peut combattre parfois que par le vidage complet du sang du nouveau-né et son remplacement par un sein étranger non antagoniste, par conséquent conforme et sans nocivité. C'est l'exsanguinotransfusion qui a fait récemment de véritables résurrections. Toute la thérapeutique des anémies globulaires ou plasmatiques ne tient pas dans la transfusion. Et elle se peut faire aussi que des principes extraits d'organes dont le pouvoir régénérateur est connu. Il est presque inutile de citer les extraits anti-anémiques de foie, d'estomac, associés ou non, et de rappeler leur succès dans l'anémie pernicieuse. Mais le quelque chose que contient ce foie ou cet estomac est encore insuffisamment défini. Peut-être est-ce cet acide folique ou ptéroglutamique que l'on trouve non seulement dans le foie, mais dans certains végétaux et même dans certaines bactéries. En tout cas, il peut être remplacé par lui. Est-ce un coferment qui facilite l'action d'autres substances, toujours les intermédiaires? Est-ce une nouvelle vitamine? Son activité est grande dans la thérapeutique de certaines des anémies du type mégaloblastique ou pernicieux. Sur les tables de nos familles, les extraits hépatiques, l'acide folique ont remplacé le sel des vieux médecins. Ils ont une action régénératrice, mais peut-être se reconstituent-ils pas, ne reconstituent-ils pas l'hémoglobine, ne font-ils pas la peinture, si je puis dire, des anémies, des hématies, mais seulement leur trame. Le fer reste utile. Comme sa résorption digestive est maigre, nous savons aujourd'hui qu'il doit être donné souvent par voie parentérale, c'est-à-dire en injection. Nous savons aussi qu'il n'existe pas que dans les hématies et le muscle, mais également dans le sérum, et que son élévation y est un guide thérapeutique en même temps qu'un élément pronostique. Si les anémies ont préoccupé les chercheurs, les hémorragies ne les ont pas laissés indifférents. Mais l'origine des hémorragies est multiple. Incoagulabilité du sang, fragilité vasculaire. À la première, on prescrit aujourd'hui la prothrombine. À la seconde, une vitamine nouvelle, déjà entrevue par Randoin et Lecoq, toute proche de l'acide ascorbique contenu dans le citron, et qu'on appelle vitamine C2 ou vitamine P. Cette vitamine semble un facteur d'utilisation de l'acide ascorbique, comme l'est l'épicatéchine, qui dérive, elle, de l'adrénaline. Et l'on voit, grâce à cette substance nouvelle, disparaître certains syndromes hémorragiques ou œdémateux et aussi certaines hématuries et certaines hémorragies digestives. Ainsi, c'est entendu et précisé la thérapeutique des hémorragies et celle des anémies fondée presque entièrement sur l'administration médicamenteuse de certains corps que contient l'organisme humain, que certains aliments peuvent lui apporter, ou en abondance certes, mais que l'ingéniosité du chimiste a reconstitué. Une anémie, une hémorragie est gênante. Une incoagulabilité est un danger des plus petites interventions. Mais une coagulation trop facile du sang dans les vaisseaux est un autre danger, surtout quand elle se produit dans la chirurgie du cœur ou des vaisseaux, qui devient très audacieuse ou vient compliquer l'infection veineuse des suites de couches et qui est toujours redoutable. Là, il ne faut plus de coagulants, mais des substances inverses, des anticoagulants. L'une de ces substances est dans le foie, dans la paroi artérielle, comme elle est dans la tête de sangsue. C'est tout d'abord l'héparine, substance soufrée, qui est sans doute charriée par des cellules à gros grains bleus. L'autre est d'origine végétale, on l'appelle la dicoumarol, ou le dicoumarol. Administré de façon précoce, le dicoumarol prévient les phlébites, supprime les embolies et permet les larges interventions artérielles sans coagulation vasculaire. Mais il doit être administré au bon moment et avec prudence en se guidant sur la prothrombine du sang et la vitesse de sédimentation, car on peut avoir des accidents. Je me suis assez longuement entendu ou étendu sur l'hématologie, car elle est, à mon sens, au premier plan de l'actualité biologique et thérapeutique, et les examens multiples du médecin, véritable biopsie du sang et de la moelle osseuse, permettent de régler mieux qu'ailleurs le traitement d'une maladie. Je dois maintenant parler de l'endocrinologie, c'est-à-dire des glandes. C'est une science qui s'est plutôt parachevée si elle ne s'est pas renouvelée dans la dernière année, mais ses progrès étaient, depuis 20 ans, si considérables qu'elle pouvait bien souffler un peu. L'extraction des hormones spécifiques des glandes a déjà provoqué l'amélioration spectaculaire, sinon la guérison de la maladie d'Addison, de la cachexie hypophysaire des myxodèmes. Mais pour certaines affections, on substitue à l'injection faible quotidienne renouvelée l'implantation dans un muscle d'une dose massive, véritable provision qui se résorbe à un rythme connu et qui suffit pour plusieurs mois. On implante pas seulement l'hormone surrénale, mais aussi l'hormone ovarienne chez la femme opérée et même chez les vieillards fatigués, l'hormone de la glande mâle. On connaît si bien la formule de ces hormones que leur préparation se fait synthétiquement. On a même trouvé des analogies dans le règne végétal à DOD, un extrait de l'anis sous le nom de diéthylstilbérol, une substance régulatrice des fonctions féminines et plus efficace que l'hormone naturelle. Ce diéthylstilbestol, dont la journée thérapeutique de 1947 a montré tout l'intérêt, ne limite pas ses effets à l'insuffisance ovarienne. Il a des plus hautes prétentions, substance féminisante. Il s'oppose au développement anarchique des cellules mâles et vise actuellement à pallier, sinon à guérir un cancer, celui de la prostate. Et il réussit souvent, ce qui est admirable. Par analogie, des substances masculinisantes sont employées contre le cancer du sein de la femme et non sans effet au moins stabilisant. Curieuse réciprocité qui montre les services que peuvent, à côté d'autres plus communs et plus intimes, se rendre l'un à l'autre les deux sexes. Ces substances de synthèse donnent de grands espoirs et le cancer du sang. La leucémie, cette affection également incurable, en peut bénéficier. Elles ne sont pas les dernières venues. D'autres produits, d'autres séries, se sont, si je puis dire, piqués d'émulation et ont été également appliqués à cette lutte contre les affections cancéreuses. Je laisse de côté des sérums qu'une propagande bien orchestrée nous apporte parfois et dont l'activité reste discutable. Parmi les agents nouveaux, l'un des plus étranges est l'hypérite. Ce gaz moutarde de triste mémoire dont souffrir et mourir tant de malheureux soldats au cours de la Première Guerre mondiale. Ce n'est pas une hypérite au soufre, mais une hypérite dans laquelle l'atome soufre est remplacé par un atome d'azote. Ce corps étudié d'abord en Amérique exerce une action retardante sur la prolifération accélérée anarchique des cellules, même des cellules normales, de l'intestin et du sang. Sans doute, son action n'est pas directe. Il inactive des ferments indispensables à leur développement normal et c'est encore le cas de dire intermédiaire. Son tropisme a été précisé par ce qu'on appelle la marche préalable de substances radioactives. Il agit sur certains sarcomes. Sur la grave maladie de Hodgkin, il n'est pas sans danger, surtout chez les sujets déjà traités par les rayons X, et il n'a qu'une action passagère. Mais c'est déjà beaucoup qu'il exerce une action évidente et spécifique. J'en arrive à la thérapeutique microbienne. Jusqu'ici, nous avions des antiseptiques, des vaccins, des sérums. Nous avons maintenant des antibiotiques, c'est-à-dire des substances qui s'opposent à la pullulation microbienne sans toucher à la vitalité des tissus qui prennent aux éléments microbiens la substance utile à leur pullulation. Je ne veux pas parler des sulfamines qui sont trop connues et depuis longtemps déjà et n'ont pas fini leur carrière puisqu'on raffine chaque jour et oriente leur action. Mais d'antibiotiques nés d'autres organismes vivants, des microbes eux-mêmes. Les microbes étaient maîtres. Ils trouvent aujourd'hui dans les champignons inférieurs à qui parler. Le Penicillium notatum a donné la pénicilline qui a fait des merveilles puisqu'elle a permis de prévenir de graves infections, de guérir des maladies jusqu'ici mortelles comme l'endocardite de Hosler, des aérobies comme le streptocoque, des anaérobies comme le perfringens et le fundoliforme. Elle fait merveille dans la gonococcie et elle n'est pas sans action sur la syphilis. Après la pénicilline sont venues d'autres. D'ailleurs, la gramicidine des Soviets, le bacille de Bévin, la streptomycine, la tirotricine et d'autres encore. Récemment est apparue au firmament thérapeutique la streptomycine qui fixe actuellement le regard anxieux de certains désespérés. Extraite d'un streptomyce, la streptomycine peut améliorer ou guérir des affections sur lesquelles la pénicilline n'a guère d'action comme la méningite de Pfeiffer. Elle s'attaque avec succès à la tuberculose. Certes, elle ne guérit pas toutes les tuberculoses, mais elle est une arme contre cette maladie terriblement décevante qu'est la méningite tuberculeuse. Dans bien des cas, elle l'a prolongée, toujours sensiblement transformée, quelquefois cliniquement guérie. Elle a jugulé de façon spectaculaire des tuberculoses aiguës, des séreuses et même du poumon granulé qui, sans elle, serait incontestablement mortel et aussi des tuberculoses plus massives à évolution rapide. C'est un formidable progrès dans le traitement d'une affection où le sel d'or, les vaccins, les sérums échouent toujours et dont le seul inconvénient est de provoquer des lésions du nerf auditif. Inconvénient rare, il est vrai, mais qu'il faut confesser et qui n'est que peu de choses en regard des résurrections qu'elle apporte et des espoirs qu'elle autorise. Il me faut, avant de conclure, envisager encore un élément capital dans la maladie et qui n'est autre que le facteur personnel ou le terrain. La chose n'est pas neuve. Elle était tout jadis et encore beaucoup aujourd'hui. Mais si le passé faisait état de choses mystérieuses, le présent fait état de réalité. Dans les infections, aussi bien que dans les maladies de la nutrition, l'agent pathogène, la cause morbide n'est pas tout. À leur égard, la réaction de divers organismes n'est jamais identique. Les uns font des lésions brutales, profondes, les autres des lésions retardées, chroniques. Nous voyons apparaître ici des congestions, des œdèmes, là des nécroses, ici des dissolutions brutales, là des scléroses et des précipitations. Il y a des sujets peu sensibles, d'autres qui le sont trop. L'hypersensibilité s'appelait jadis idiosyncrasie. Elle s'appelle aujourd'hui anaphylaxie. Et l'insensibilité s'appelle anergie. Une injection de sérum peut être mortelle. Une lésion tuberculeuse peut être d'emblée destructrice. L'urticaire peut s'accompagner de syncope et le poison goutteux ou rhumatismal de fluxions articulaires persistantes et indéfiniment renouvelées. La réaction aboutit même à la précipitation de nombreuses diverses cholestérine, calcium, oxalate, urate, qui font des incrustations durables et qui appellent d'autres incrustations. Et l'hypersensibilité chronique peut aboutir à la maladie précipitante. Dans presque tous les processus interviennent des intermédiaires, le blocage des substances utiles au métabolisme cellulaire normal, ou la décharge de substances virtuelles ou silencieuses, agents majeurs de nos réactions vasculaires ou sécrétoires. Le blocage des unes permet l'accumulation de réserves ou l'altération du protoplasma, comme cela se produit dans la dégénérescence du foie, par exemple. La décharge des autres gonfle les fonctions, dilate les vaisseaux, congestionne les organes, facilite les exsudations. Contre celle-là, nous avons signalé déjà tout l'intérêt d'une thérapeutique nutritive et régulatrice. Contre celle-ci, on a utilisé des corps nouveaux de synthèse et vraiment antagonistes. C'est dans cette dernière catégorie que l'on doit ranger les antihistaminiques, ainsi nommés parce qu'ils s'opposent à l'action de cette base dangereuse qu'est l'histamine et que contiennent tous nos tissus. Ils sont à la fois français et américains. Ils suppriment ces réactions exubérantes, bruyantes, dramatique, parfois mortelle, qui ajoute un élément nouveau à la maladie et accuse son tableau clinique et le déforme. Tels sont les derniers aspects de la médecine et ses acquisitions majeures. Les uns et les autres autorisent d'immenses espérances grâce à des bases physiologiques solides, à des examens chimiques plus précis, à des appareils de plus en plus pénétrants et perfectionnés, grâce à l'alliance qui doit être intime du biologiste et du médecin, et malgré ce cas toujours d'imprévu, de variable, de mouvant, une observation médicale, la médecine qui, hélas, ne pose pas les postulats mais les subit, ne mérite ni le dédain, ni la considération un peu hautaine des savants. Elle est une science expérimentale, certes, mais une science. Elle est même le groupement indissoluble obligé de plusieurs sciences. Elle a suivi la piste tracée par Claude Bernard. Elle peut être fière de son ascension et de ses découvertes. Voilà. Fin de la lecture de l'article publié en 1949, donc écrit en 48, un article par le professeur Maurice Loeper, membre de l'Académie de médecine. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? On voit la chimie du sang, l'hématologie, avec tout ce qui est héparine, extrait donc de sangsue, voire une protéine, une substance végétale, la coumadine. Donc c'est déjà dans les années 1847, 48 par là. On n'a rien inventé depuis. Hein. On parle de la streptomycine qui est spécifique contre la tuberculose. On parle des antihistaminiques. Alors, on parle des accidents de la transfusion, les phérésus, ça a été travaillé encore plus, hein. Quel Dufy, c'est arrivé après. Alors ce qui est très intéressant, c'est que depuis 1949, la base est toujours la même. C'est la Deuxième Guerre mondiale qui aurait permis à la médecine de faire un bond. Donc c'est dans des situations de drame que finalement on est inventif. C'est tout ce que je peux retenir, ce qui veut dire que la situation actuelle, sur un plan santé, doit permettre de reconsidérer notre mode actuel de travail. Est-ce que la médecine continue comme en 1949 ou est-ce que nous avons de nouvelles choses à faire? Chose tout aussi intéressante, c'est le cancer. Comment est pris l'idée du cancer? Donc, dans un article publié en 49, donc l'Almanach 1950, il parle de substances irritantes, du goudron et du tropisme, de la prédisposition génétique, donc des irritants chroniques. 1950, hein, étude faite en 49. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et il parle toujours de l'alimentation. Ce qui peut être intéressant, c'est que la vision de la médecine, qui est une vision d'acte, thérapeutique, comment peut-on la développer pour aller vers une médecine préventive? Aujourd'hui, avec toute la base de connaissances, on sait que on peut éviter la maladie. Mais comment faciliter, comment développer, comment financer la médecine préventive? Donc, il y a un livre très intéressant écrit par Jacques Attali qui s'appelle « L'ordre cannibale », écrit dans les années 1978, publié chez Lafond de mémoire, je vais vous en parler plus tard, qui disait que les gens vont se prendre en charge et en fonction de leur carnet, en quelque sorte, de leur pratique chez eux avec les différents appareils de mesure, d'auto-mesure, ils seront plus ou moins remboursés dans leurs frais. Et le médecin n'aura plus le rôle qu'il a. Il sera encore plus cantonnée à certaines activités très spécialisées. Donc on voit quelque part disparaître la médecine générale pour une médecine d'hyperspécialité dans certains domaines. Donc qui est-ce qui va faire la synthèse de tout ça? Voilà, donc c'est très intéressant de partir dans le passé pour avoir une espèce de perspective d'avenir. Rien de nouveau sous le soleil depuis 1949.